Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Dans les deux précédentes émissions, nous avions commencé à parcourir votre nouveau livre intitulé « Ce que la Bible dit sur la fidélité » qui vient d'être publié aux éditions Nouvelle Cité. Nous continuons dans cette troisième et dernière émission de la série à découvrir comment se manifeste la fidélité de Dieu avec ses partenaires. Et dans cette émission, nous allons focaliser principalement sur le Nouveau Testament. C'est ce que vous traitez dans les trois derniers chapitres de votre livre, Père Alain. Pourriez-vous nous dire en quelques mots comment Dieu va continuer de dire sa fidélité à travers la personne de Jésus ? Qu'y a-t-il de nouveau avec lui ?
Voilà, alors là, évidemment, on touche à un débat très, très compliqué, très, très difficile et en même temps passionnant, qui est le passage de, disons, du judaïsme au Christ, lui-même étant juif. Et donc, il y a un passage qui n'est pas facile toujours à comprendre. Les juifs étant à la fois juifs fidèles à la Torah, et les premiers chrétiens étaient aussi des juifs fidèles à la Torah. Donc Jésus va apparaître comme étant une figure fondatrice, au fond, qui, même au plan humain, à travers ses titres, Jésus le sage, une sagesse qui se développe surtout dans les paraboles, à travers sa participation au baptême aussi, où le ciel s'ouvre, signe que Dieu est toujours là et qu'il est avec nous, à travers aussi sa fidélité à la Torah, à la loi. Il est le prophète qui vient dire des choses nouvelles. Vous avez appris, et moi je vous dis. Et puis l'exorciste, celui qui guérit. Et puis finalement, le maître du langage, enfin, on pourrait dire beaucoup de choses, et le ressuscité. Et donc, le ressuscité, ça sera bien sûr après. Les premiers chrétiens et les fidélités que j'ai évoquées ici, ce sont les fidélités d'avant la résurrection. Mais on pourrait dire d'une certaine manière, par sa stature, par son exigence, par la fascination qu'il a exercée, Jésus a inscrit une nouvelle mode de fidélité, pourrait-on dire, qui est illustrée par ceux qui l'ont suivi, avec une puissance, une force extraordinaire qui fait que, oui, beaucoup l'ont suivi. Peut-être je pourrais donner une image qui pourrait nous aider à comprendre et que certains exégètes ont utilisé pour penser le rapport au peuple juif. Parce que le grand risque que l'on a quelquefois quand on aborde cette question, c'est de dire tout simplement « le peuple juif a été infidèle ». Et aujourd'hui, on revient sur cette formulation trop abrupte et qui n'est pas juste. Et j'ai trouvé sous la plume de quelques auteurs une idée qui m'a beaucoup plu et que je vous résume en quelques mots. C'est l'histoire du jeune homme riche. Si vous regardez le jeune homme riche, c'est qu'il est un jeune, c'est un juif pratiquant, qui fait penser à Nicodème, à Saint Paul, un jeune homme qui vit sa fidélité et qui vient trouver Jésus. Et Jésus, en le regardant, Jésus l'aime. Et c'est quand même exceptionnel. On n'a pas d'autre passage où Jésus a eu cet amour. Et au terme, quand il lui dit, il lui cite la loi, et il lui répond, tout cela, je l'ai fait. Et Jésus est admiratif, et il lui dit, il te manque quelque chose, viens, suis-moi. Et certains commentateurs se sont demandé si nous n'avions pas là une espèce de métaphore du judaïsme, un judaïsme attirant, riche. Il était très riche, ce jeune homme, et que ce jeune homme, au fond, aimait tellement la tradition juive dans laquelle il était, qu'il n'a pas pu lâcher prise et qu'il est parti tout triste. Alors, ça pourrait dire, au fond, quelque chose de la fidélité d'Israël, et puis peut-être aussi de notre lien avec Israël, comme ce jeune homme riche nous le fait toucher du doigt.
Alors, vous présentez ensuite plusieurs chemins de fidélité dans le Nouveau Testament. selon vous, ils peuvent être exemplaires ou hésitants ou parfois douloureux. Dans l'Évangile, Marie n'est-elle pas un modèle parfait de fidélité, Père Alain ?
Oui, alors c'est vrai que quand on regarde Marie dans tous les Évangiles, mais je vais peut-être me centrer sur Saint Jean, parce que Jean a fait de Marie une figure assez extraordinaire, et on a vraiment un chemin de fidélité assez intéressant à comprendre, puisque son chemin de fidélité inclut tous les croyants, comme je vais essayer de le montrer. En quelques mots, je pense au repas de Cana. Vous vous rappelez le contexte de Cana. Il y a un échec, il n'y a pas de vin. Et à ce moment-là, la Vierge Marie s'appelle la Mère de Jésus. Elle est toujours appelée la Mère de Jésus. Les deux termes étant importants. Hein. Dire la Mère, c'est dire déjà une autorité maternelle. Et de Jésus, évidemment, ça requalifie, pourrait-on dire, l'autorité de cette mère, puisque son fils, c'est le Fils de Dieu, donc ça complique. Mais il n'y a plus de vin. Et elle s'autorise, ce qui est une audace extraordinaire, de se tourner vers Jésus pour lui dire « il n'y a plus de vin ». Et à ce moment-là, elle entre dans son chemin de fidélité à travers une réponse étonnante de la part de Jésus. Et Jésus lui dit, si on traduit littéralement l'expression hébraïque, c'est une formule qu'on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament, en hébreu c'est « Mali walecha, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» En hébreu, c'est toujours une mise à distance. Et donc, Jésus met sa mère à distance d'une certaine façon, comme s'il lui disait « Oui, tu es ma mère, tu m'as mis au monde, tu m'as enseigné, tu m'as appris la Torah, mais maintenant, je t'invite à devenir, toi qui es ma mère, une disciple aussi, et la première des disciples. » Et à ce moment-là, elle répond, et c'est évidemment la réponse qui est fondamentale, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » C'est-à-dire, elle définit en quelque sorte la fidélité. Et elle-même devient la première des fidèles. C'est-à-dire, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Et elle le dit à qui ? Directement dans l'histoire elle-même, aux serviteurs qui sont là. Jésus va leur dire « Remplissez les jarres, vous connaissez. » Et puis, elle le dit à tous ceux qui sont là, et aux disciples. Et elle-même, elle a un chemin de fidélité un peu douloureux, parce que si on regarde ça de près, c'est sévère quand même de lui dire « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Elle va entrer dans cette fidélité, et elle va se retrouver au terme de la fidélité, au pied de la croix. Et elle qui avait dit à tous ceux qui étaient là « Tout ce qu'il vous dira, faites-le », elle l'a fait, mais eux ne sont pas là, au pied de la croix. Et je voudrais juste dire un petit mot, peut-être pour synthétiser un peu ça, dans l'évangile de Jean, et là ça nous fait boucler un peu avec ce que nous avons dit au début, la fidélité c'est de croire dans la durée, nous avons dit ça à propos d'Abraham. Eh bien, on dit à la fin du récit de Cana, ses disciples crurent en lui. Et on aurait envie de dire, ah ben c'est bien, ils sont fidèles, ils ont cru en lui. Or, si vous ouvrez l'évangile de Jean, et je sais que vous êtes familier de cet évangile, vous aurez la surprise de découvrir que on trouve dans l'évangile de Jean 98 fois le verbe « croire ». C'est-à-dire, vous voyez, quand on dit des disciples, et ses disciples crurent en lui, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont cru ? On verra bien. Les infidèles qu'ils seront quelquefois, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien cru, ou qu'ils n'ont pas cru dans la durée, ou qu'ils n'ont pas cru dans la résistance, dans la détresse. Vous voyez, Marie, elle, tout ce qu'il vous dira, faites-le, c'est soyez fidèles à ce qu'il vous dira, comme moi je suis fidèle, et je me trouve au pied de la croix, j'ai été fidèle. Et vous, où êtes-vous passé ? Vous voyez, c'est intéressant par rapport à notre thématique de la fidélité, de voir comment Marie, elle ouvre le chemin de la fidélité. Elle est la première fidèle, mais à travers une épreuve. Hein, parce que c'est vrai, c'est quand même une épreuve, vous vous rendez compte. Certains commentateurs, d'ailleurs, sont même sévères quand ils commentent ce passage. Ils disent, Jésus l'a remis à sa place, etc. Ça, c'est souvent, quelquefois, les protestants, autrefois.
C'est vrai que quand on relit le texte, il y a quelque chose qui est un peu troublant. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ?» Il ne dit pas « mère » ou « maman », il dit « femme ». C'est étrange.
Oui, c'est vrai, et c'est la seule appellation qu'il donnera à sa mère du début à la fin. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais appelée dans Jean autrement. Pied de la Croix, c'était sa mère, soit femme, mais c'était la mère de Jésus. Et là, femme, effectivement, une appellation solennelle qui la identifie peut-être au visage d'Israël. Elle est l'Israël fidèle, alors pleinement fidèle.
Alors, vous avez commencé à évoquer qu'il y a d'autres disciples aussi qui peuvent être dans des situations de fidélité assez différentes. Et vous citez notamment Jean et Simon-Pierre. Mmh. Et vous faites un parallèle entre ces deux très proches disciples de Jésus. C'est des intimes. Mmh. Donc ces deux personnes, vous faites un parallèle entre les deux. Alors que Pierre a eu un parcours quand même un peu chaotique par rapport à la fidélité.
Mmh. C'est vrai. Alors, on connaît mieux peut-être celui de Pierre parce que il est détaillé largement dans les évangiles. Hein. Et donc, je peux présenter peut-être d'abord celui de Pierre et puis on reviendra après sur le disciple que Jésus aimait. Pierre, quand Jésus l'appelle, il lui donne un nom nouveau. Et c'est beau parce que ça fait penser au baptême. Hein. Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Céphas. Et donc, voilà le chemin de fidélité que je te propose. Tu seras Céphas, c'est-à-dire tu seras la pierre sur laquelle je vais bâtir mon église. C'est ça qui est implicitement dit à travers ce passage. Et Pierre, désormais, n'est plus Simon, fils de Jean, mais il est la pierre. Et au long de l'évangile, on verra que c'est vrai que par moments, il est fidèle quand même. Au moment où, en particulier, la multiplication des pains, vous vous en souvenez, au moment où Jésus commence à dire son identité formidable et intérieure, les gens s'en vont, les uns après les autres, les Juifs, les disciples même, à tel point que Jésus se pose la question, et pose la question aux disciples, est-ce que vous aussi, vous allez partir? C'est intéressant parce que ça reflète un événement historique. Il y a eu une crise dans la séquela, la suite de Jésus. Il y a eu une grande crise. Beaucoup sont partis, y compris des disciples. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est détaché de Jésus. Et Pierre dit non. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et en même temps, le même Pierre, au moment de lavement des pieds, il va dire non. Jamais tu me laveras les pieds. Et donc ça veut dire qu'il entre aussi dans un chemin d'infidélité et qui va aller s'amplifiant tout au long du chapitre dans l'évangile de Jean.
Est-ce que ce n'est pas une infidélité à une image qui se faisait de Jésus qui n'était finalement pas la bonne?
Bien sûr, mais ça, on le saura après. Si vous voulez. Je pense qu'il était convaincu que Jésus était un seigneur de guerre et qu'il allait chasser les Romains, qu'il allait leur donner les premières places dans son royaume. Et tout ça va, vous imaginez le scandale du lavement des pieds, lui qui vient d'entrer dans Jérusalem avec les signes de la royauté, voilà qui se met à laver les pieds de ses disciples. Pierre dit, jamais tu me laveras les pieds. C'est important, c'est-à-dire que Jésus lui dit, si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas faire partie des miens. Sous-entendu, si tu vas dans le royaume, il faut que tu passes par là. C'est-à-dire que tu deviennes toi aussi un serviteur. Oui, c'est un long chemin. Et Pierre mettra du temps à le comprendre. Et peut-être même ne l'a-t-il pas totalement compris tout de suite, même au moment de la mort de Jésus, parce qu'il n'est pas là.
Il va quand même pleurer amèrement au chant du coq.
Oui.
Judas, il n'a pas trop pleuré, lui.
Il a pleuré amèrement, mais dans Saint Jean, il ne pleure pas. Dans Saint Jean, Jésus, c'est presque plus dur. Je te l'avais bien dit. Quand le coq chante, c'est presque s'il y avait tout simplement ça, je te l'avais bien dit. Tu donneras ta vie pour moi? Par trois fois, tu me trahiras. Et donc, à la fin de l'évangile, vous vous rappelez, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Vous voyez, vous vous rendez compte comment il l'appelle? Simon, fils de Jean. C'est-à-dire, alors qu'il lui avait donné un nom nouveau, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, il le désigne au fond comme s'il n'avait jamais été dans la fidélité, comme s'il était resté Simon, fils de Jean. Et Pierre, évidemment, par trois fois, m'aimes-tu, il est triste, évidemment, parce que son chemin va s'ouvrir, là. Et il faut qu'il aime parce qu'il est le guide de ce peuple que Jésus a aimé. Et c'est l'Église qui commence. Vous voyez, donc ça, c'est un passage évidemment assez douloureux, mais qui est beau aussi dans la fidélité de Pierre, disciple que Jésus aimait, étant un peu à côté celui qui est parfait, d'une certaine manière.
Alors, on pourrait continuer très longtemps sur ces personnages du Nouveau Testament au regard de cette question de la fidélité. Et en conclusion de votre ouvrage, Père Alain, vous proposez une ouverture sur les fidélités et les infidélités d'aujourd'hui, en évoquant notamment les engagements chrétiens que sont le mariage ou la vie religieuse et sacerdotale. Est-il encore possible aujourd'hui de tenir de tels engagements à vie, Père Alain ? Fidélité inconditionnelle.
Vous êtes marié, moi je suis célibataire.
Religieux.
J'ai vécu ma fidélité avec les moyens qui étaient les miens, ma fragilité. Vous avez vécu votre fidélité dans le mariage. Ça veut dire au fond que c'est possible quand même. Mais c'est vrai que l'infidélité existe. Et aujourd'hui, par exemple, on sait bien qu'il y a beaucoup de divorces. Je lisais là récemment des statistiques sur les couples âgés, le nombre de couples âgés qui divorcent assez tard dans la vie. Ça veut dire que la fidélité n'est pas évidente. Et chez les prêtres, il ne faut pas se cacher aussi qu'il y a des départs. Il y a des prêtres qui ne vont pas au bout de leur itinéraire. Et donc ça veut dire que la fidélité, ce n'est pas facile. C'est un chemin, mais c'est jamais joué définitivement. Et en ce sens-là, toute la tradition biblique, au fond, nous éclaire. Et on revient presque à ce qu'on disait en parlant du lien entre Dieu et son peuple. Dieu avec la carte d'identité parfaite et le peuple, les croyants avec leur imperfection. C'est comme ça qu'on marche dans la fidélité. C'est des fidélités difficiles, mais en même temps des fidélités qui résistent. Et ça, c'est important aussi de se dire, oui, il y a des fidélités, même si peut-être qu'aujourd'hui, on est plus détaché par rapport à ces exigences de fidélité d'autrefois. Il y a plus de liberté peut-être, plus aussi de tentation. Enfin, tout est possible. Chaque époque, au fond, a ses modes de fidélité.
Mais plus globalement, parce que là, on a parlé d'engagement très spécifique, et puis avec le regard chrétien qu'on peut porter dessus, mais plus globalement, comment peut-on rester fidèle à Dieu en Jésus-Christ et à son évangile dans un monde où beaucoup considèrent la foi religieuse comme un obscurantisme ou une sous-culture? Est-ce que la tradition biblique que nous venons de revisiter peut nous y aider malgré nos fragilités humaines et les difficultés propres à notre temps, Père Alain?
Il ne faut pas nous laisser influencer par le regard des autres, c'est-à-dire ce que vous dites, ce que considèrent les gens qui ne sont pas dans la foi chrétienne, c'est une chose. Nous avons le sentiment que nous avons un chemin de vie qui est un chemin d'espérance, c'est-à-dire que la mort n'est pas un chemin définitif de chute. Ça, on parle beaucoup de la mort aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, il y a de très beaux livres qui sortent là ces jours-ci.
Oui, beaucoup.
En particulier, un livre sur la mort dans les monastères.
Oui, j'ai vu ça, oui.
Je suis en train de le lire et il est magnifique. Alors, il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'obsessionnel quand même, hein, mais la mort, c'est au terme de notre route. Un jour ou l'autre, chacun de nous la rencontrerons. Donc, c'est mieux peut-être de s'y préparer d'une certaine manière. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit bien, selon les âges, on s'en approche. Mais la mort n'est pas quelque chose de facultatif. La fidélité, c'est d'aller au bout de notre route. Et donc, c'est là
on
aussi.
On dit souvent être fidèle jusqu'à la mort.
Jusqu'à la mort. Oui, c'est ce que. Quand on fait nos vœux. C'est ce qu'on dit, je m'engage à être fidèle jusqu'à la mort. Donc, oui, pas toujours facile. Il y en a qui, je ne sais plus quel écrivain avait présenté les prêtres qui avaient trahi leur fidélité. On les avait présentés au ciel avec un calice renversé. C'est un grand écrivain qui avait raconté ça. Bon, mais il faut quand même peut-être mieux mettre l'accent sur la fidélité quand même de ceux qui vivent la fidélité, même si on sait que c'est toujours quelque chose à construire et qui n'est jamais définitif.
C'est vrai que dans l'époque d'aujourd'hui, il y a aussi parfois un peu de relativisme aussi, c'est-à-dire que être fidèle à l'Évangile, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que normalement, le chrétien, il doit être fidèle à tout l'Évangile ? Mais là, on voit bien qu'il y a des débats dans l'Église. On veut être fidèle à certains aspects de l'Évangile et pas à d'autres, etc. Il y a beaucoup de débats en ce moment.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé, si vous voulez. Je crois qu'on le voit bien, même dans l'Église. Moi, j'ai vécu Vatican II comme vous. J'étais à Rome pendant tout le Concile Vatican II. J'ai eu la joie de vivre Vatican II. Et je reste, même si aujourd'hui il y a des jeunes peut-être moins sensibles qui trouvent que c'est dépassé, je trouve que Vatican II nous a mis sur un chemin. Et la fidélité, elle s'adapte aussi selon les époques. Je crois qu'on n'a pas les mêmes fidélités selon les cultures, selon les époques, selon les pays, selon bien des choses. La question étant, reste-t-on fidèle ? Mais dans l'intelligence, et dans la fidélité, dans la foi, oui. Mais chacun ayant peut-être son chemin à faire, au fond.
Voilà. Nous voici donc arrivés au terme de cette troisième et dernière émission consacrée au thème de la fidélité dans la Bible. Merci à vous, Père Alain Marchadour. Je rappelle que votre livre s'intitule « Ce que la Bible dit sur la fidélité » et qu'il est publié aux éditions Nouvelle Cité. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être écoutée à tout moment sur notre site web. Au revoir à tous et à très bientôt sur notre antenne.